Et pour tous ceux qui aiment voir les choses autrement, on retrouve, parenthèse évidemment, est incarnée sur France Inter par Laurence Lurel. Bonjour Laurence.
Bonjour Patricia, bonjour à tous
tout
et
va
à
bien.
Toutes. Bah, écoutez, ça va plutôt pas mal ce matin.
Alors ce matin, vous recevez un historien, l'historien Shlomo Sand.
Bonjour Shlomo Sand.
Bonjour.
Bienvenue à France Inter, vous enseignez l'histoire contemporaine à l'Université de Tel Aviv. Vous êtes de passage à Paris pour la publication de votre dernier livre, Crépuscule de l'Histoire, dans lequel vous revenez parfois, je dirais, avec presque de la mélancolie sur votre parcours. Et alors, en refermant votre livre, Shlomo Sand, je me demandais quand même à quoi sert l'histoire avec un grand H.
Oui, c'est une grande question. Et que je crois que la plupart, comment dire, des disciplines servent à quelque chose. On ne fait pas seulement pour les raisons esthétiques, surtout pas les histoires, à oui. cause des raisons esthétiques. Donc, je crois que l'histoire comme discipline universitaire et aussi comme un métier pédagogique qui est enseigné au lycée et collège à partir du 19e siècle a servi comme première tâche aux nations. C'est-à-dire construire et aider l'État-nation de se réaliser. Donc partout dans le monde, où il y a un État-nation, il y a les métiers d'histoire partout, dans les petites écoles, les collèges, etc.
Et mais alors quand même, Shlomo Sand, que nous apporte-t-elle cette fameuse histoire avec un grand H? Parce qu'on a l'impression que les hommes n'apprennent pas beaucoup d'elle, que même l'histoire elle-même se répète parfois, bégaye. Je pense à la montée actuelle des nationalismes. On sait où ça mène.
Il y a une montée des nationalismes, mais je crois que certaines tâches historiques importantes sont terminées. C'est-à-dire... on a arrivé d'achever les nations. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a une nation française, il y a une nation allemande, tout le monde parle français. Et l'histoire a aidé à former cette identité collective des nations. Parce que pour former une identité collective, on a besoin des langues communes. Il faut un ennemi pour former des nations. Et il faut aussi un passé imaginaire ou pas imaginaire pour montrer qu'il y avait toujours cette collective, que toujours cette collective a existé. Et je crois que cette tâche très centrale à partir du 19e siècle, à partir de Augustin Théry, Michelet, Lavis, aujourd'hui on est arrivé qu'on n'a pas besoin.
Donc il y a une page qui se tourne.
Il y a une page qui tourne et chaque professeur d'histoire, n'importe où, dans le monde occidental, a un sentiment qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut enseigner dans l'histoire, parce que les tâches centrales de Lavis, de Michelet, etc. est terminée. Et une grande partie de cette grande histoire, avec grande H, grande nation, est terminée. Et c'était aussi très, très imaginaire. Plus en plus, je ne crache pas dans le sup parce que j'ai gagné ma vie avec ces métiers d'historien, mais je crois que l'histoire est une sorte d'idéologie en forme de récit, plutôt qu'une science.
Alors justement, on va écouter Shlomo Sand, un grand amateur de livres d'histoire et puis aussi peut-être de mythologie, l'anthropologue Claude Lévi-Strauss.
Je suis passionné par l'histoire et je ne lis pratiquement que des livres d'histoire. À vrai dire, peut-être... moins ces livres qui traitent de la longue durée, dans le vocabulaire de Brodel et des Annales, et qui essayent de dégager des tendances profondes, que dans ces livres d'histoire presque anecdotiques, où je vois revivre des sociétés qui, pour être des stades antérieurs de celles où je vis, ne sont pas moins différentes et instructives que celles que je vais chercher en Amérique du Sud ou en Mélanésie.
Le grand anthropologue Claude Lévi-Strauss en 1988. L'histoire varie selon sa culture, d'où on parle, Shlomo Sand. Il n'y a pas d'histoire objective, elle est toujours pervertie, dites-vous.
Toujours cette idéologie ou philosophie en forme de récit. Et plus en plus, je pense que les histoires, c'est des mythes avec des notes en bas des pages. C'est qui transfère ces mythes comme une science. Oui, je ne crois pas qu'il ait pu être une histoire objective. Je crois que Lévi-Strauss a eu un regard critique juste sur les historiens. Il a aimé les histoires comme moi j'aime les polars. Mais il n'a pas pris trop au sérieux les historiens. Donc je crois qu'on va continuer à s'amuser avec l'histoire. Mais il y a un problème aujourd'hui d'écrire des histoires parce que l'histoire... était écrit toujours avec une vision d'avenir. Et je vis dans une culture en Israël, et même ici, beaucoup plus fort, qu'il n'y a pas un avenir. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer un avenir. Donc, il y a un impact direct sur l'écriture historique.
Est-ce que ça veut dire, Shlomo Sand, que l'histoire a raté sa tâche et qu'il y a quelque chose d'irréductible et de même d'intransmissible aux générations futures, suivantes, etc.
Et la deuxième partie de vos propos est juste, sauf que la première partie, non, il n'a pas raté parce qu'il a formé des nations. Il a rempli un rôle très important. Vous devez savoir qu'à partir des Grecs, de Hérode, jusqu'à Gibbon et Voltaire, l'histoire était une forme de littérature très intéressante, bien écrite, parfois plus que mes collègues et moi-même. Mais aujourd'hui, même que l'histoire moderne, nationale, il n'a pas raté, sauf qu'il n'a pas une suite. Parce qu'on ne peut pas continuer à parler ni sur les Gaulois anciens, comme ça, nos ancêtres. On ne peut pas même glorifier trop les guerres nationales si on veut construire l'Europe. Et il y a beaucoup de problèmes. On ne sait pas qu'est-ce que c'est. Il faut transmettre maintenant pour les générations suivantes, je crois.
Alors justement, Shlomo Sand, et pour conclure, vous évoquez à la fin de ce livre Clio. Clio, c'est la muse vieillissante, je vous cite, hein, je ne me serais pas permis, la muse vieillissante de l'histoire qui semble s'enfoncer aujourd'hui dans le crépuscule parce qu'elle peine à raconter des grands récits, les actes des hommes. Alors comment y remédier? C'est quand même la grande question quand on fait votre livre. On se dit, bon, bah alors... on fait quoi maintenant?
Ah, c'est très bien. C'est-à-dire, personne n'a pas une réponse. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que ça dépend de la vision du monde qu'on peut avoir demain, qui doit être complètement différent. Si vous voulez me demander quelle histoire je voulais écrire, pour le moment, je pense sur une polar historique. C'est-à-dire, je suis comme Lévi-Strauss. J'aime beaucoup des petites anecdotes, des petites histoires. Je suis attiré. Comme ça, j'ai commencé à faire des histoires. Pour l'avenir, si on aura quelque chose à transmettre pour les générations suivantes, c'est une sorte d'histoire universelle.
Ça veut dire qu'il faut apprendre l'histoire pour s'en libérer, en quelque
Exactement.
Sorte.
Exactement. C'est-à-dire, il faut moins d'histoire. C'est-à-dire, moi, je crois, par exemple, que dans les collèges et dans les lycées, il faut apprendre beaucoup plus la philosophie. Parce que si la philosophie, en principe, doit apprendre les gens comment penser, et l'histoire, sa tâche est... enseigner les gens quoi penser, je préfère, surtout aujourd'hui, dans ce début du 21e siècle, qu'on apprend les gens plutôt comment penser en place de quoi penser.
Bon, ben, vos étudiants ne le savent peut-être pas, mais vous allez leur faire un cours de philosophie.
Plus en plus. Sauf que je ne suis pas assez intelligent pour être un vrai philosophe.
Ouais, ça, c'est vous qui le dites. Merci.
Quelle hiérarchie.
Crépuscule de l'histoire, c'est le titre de votre dernier livre, publié chez Flammarion pour tous les amoureux d'histoire et de philosophie. Et à noter que se tiennent ce week-end à Blois les rendez-vous de l'histoire à vie aux amateurs.